êtes venu avec une maladie ou je ne sais. Quelle est la solution? Pourquoi on se réunit? Qu'est-ce qui peut se passer? Comment faire pour s'en sortir? J'aimerais qu'on puisse lire quelques textes en introduction, on ne va pas lire beaucoup. En premier, j'aimerais lire ce texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 10. Au chapitre 10, le Seigneur nous donne des pistes sur la manière avec laquelle il faut recevoir ce qu'il nous dit. Au chapitre 10, au verset 21, on a un moment particulier où on voit Jésus qui tressaille de joie. C'est pas souvent écrit, quoiqu'il avait la joie de Dieu en lui, ça c'est sûr, mais comme il avait tout le temps, c'était pas forcément utile de le préciser. Mais là, il y a un moment particulier. Et il est écrit ceci, « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. » Cette simple remarque, elle nous montre quand même beaucoup de choses. L'homme s'inquiète de comment faire. Comment faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je dois faire pour être guéri? Que faire? Que faire? Que faire? Tournons quelques pages en arrière et au chapitre 8, on a une situation où on a un homme qui est en proie à se dire comment faire. On lui annonce la mort de sa fille. Au chapitre 8 et au verset 50, Jésus dit quelque chose de très simple. Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte. » On vient de lui annoncer le décès de sa fille. Jésus lui dit, « Sois sans crainte. » Ça pourrait paraître moqueur dans la bouche de n'importe qui, mais dans la bouche du maître, ça n'a rien à voir. Dans la bouche du maître, le Seigneur, il encourage à ne pas regarder aux apparences, à ne pas regarder à ce qui peut se passer, mais à regarder plus loin. Que dit Jésus? Sois sans crainte. Crois seulement et elle sera sauvée. Évangile de Jean, pareil. Face à la mort, on a Marthe qui est avec Jésus et Jésus essaye d'encourager Marthe. Il n'essaye pas, il le fait. Jean, chapitre 11, verset 40, on a ce verset qu'on retrouve parfois affiché dans nos églises, je vous le dis, parce que de l'église d'où je viens, c'était un grand cadre. Et c'est comme ça que j'ai appris une de mes premières références par cœur. Jean 11, 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il n'est pas question de faire ici, il est question de croire. Et pourquoi j'ai voulu lire en introduction ce texte qui parle des enfants? C'est parce que c'est un trait caractéristique de l'enfant. Quand il apprend quelque chose, quand on lui dit quelque chose, il le croit, sur parole. Et il ne l'accepte pas au niveau de la tête, de l'intellect, mais ça va droit au cœur. Et ce qui est remarquable chez les enfants, il faut que ce soit la même chose chez nous. Et c'est la clé pour être libéré. On le lit dans l'évangile de Marc, c'est la clé pour toute notre vie. Marc chapitre 16, et c'est là, je dirais, un grand résumé, quelque part, de ce qu'il faut faire. À partir du verset 15, Jésus dit, il parle à ses disciples, hein, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il n'est pas écrit que celui qui ne croira, qui ne sera pas baptisé, ne sera pas sauvé. C'est important ça, parce que le brigand sur la croix, il n'a pas été baptisé et il est sauvé. Je le dis parce que le baptême n'est pas un diplôme ou un truc qui nous permet d'accéder au salut. Ce qui est important, ce n'est pas le baptême, même si c'est bien d'obéir, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est bien d'obéir, mais c'est important de savoir pourquoi on veut prendre le baptême. Ce que Jésus dit de très important, et on s'en rend très bien compte quand il fait la négation de ce qu'il dit, c'est que ce qui est important, c'est de croire. C'est de croire. Mais de croire quoi ? Pour préparer ce message, je me suis dit, tiens, on va aller regarder dans le dictionnaire. C'est un bon allié des prédicateurs. Et le dictionnaire, quand on regarde le verbe croire, il y a 4 points qui définissent le mot. Et figurez-vous que c'est très intéressant. Alors on va les voir, ces 4 points, parce que vu qu'il est question de croire, et pas de faire, pas de dire, on est dans la réception, on est dans le fait de croire. Premier point, qu'est-ce que ça veut dire croire ? Être certain de l'existence de quelqu'un, de quelque chose, de la véracité de quelque chose. Autrement dit, ici, il s'agit déjà de croire en une chose très importante, sinon déjà nous ne serions pas là, je ne serais pas là. Est-ce que vous croyez en l'existence de Dieu ? C'est le point de base. Est-ce que Dieu existe ? Je me suis imaginé, j'ai essayé de me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile et qui se dit, mais si Dieu existait, comment il serait ? Alors, c'est pas facile, parce que moi, c'est vrai que je connais depuis que je suis petit, mais bon, je pense quand même que quand on cherche de tout notre cœur, si on devait se définir ce qu'est Dieu, ou les traits caractéristiques de Dieu, eh bien, on imagine facilement certaines choses. Je crois que n'importe qui se dit « si Dieu, il existe, il fait ce qu'il veut ». Moi, je crois que c'est ce qui relève de la divinité. Un vrai Dieu, il fait absolument tout ce qu'il veut. Et il est tout puissant. Ça me semblerait normal. Si Dieu existe, il n'est pas perturbé par quoi que ce soit. Si Dieu existe, moi je crois en la justice de Dieu aussi. Si Dieu existe, alors je pense que là où on peut constater souvent parmi les hommes qu'on n'arrive pas toujours à exercer la justice, les erreurs judiciaires, ça existe, et la mort de notre Seigneur en est une belle preuve, l'homme n'est pas capable d'exercer la justice. Mais si Dieu existe, moi je suis convaincu qu'il est juste. C'est pas possible autrement. Mais si Dieu existe, je crois aussi une chose, c'est qu'il aime tout le monde. Moi, je ne peux pas imaginer, et c'est ce qu'on entraîne très souvent, si Dieu existe, il aime profondément l'homme, ça ne peut pas être autrement. Et si Dieu existe, qui je suis, moi ? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que si on commence à considérer l'existence de Dieu, c'est peut-être intéressant de se dire d'où est-ce que moi je viens. Parce que si Dieu existe, je ne vois pas comment je ne pourrais ne pas être sa créature. Si Dieu existe, c'est lui qui m'a créé. Et d'ailleurs, si Dieu existe, c'est lui qui a tout créé. Ça ne peut pas être autrement. Parce que c'est justement ce qui fait que Dieu est Dieu. Si Dieu existe, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il est éternel. Dieu, si on essaye de s'imaginer ce qu'il peut être, eh bien, il va être un condensé de tout ce qu'on ne peut pas atteindre. Nous, on a un début, une fin, mais si Dieu existe, c'est l'inverse de nous. Il n'a ni commencement, ni fin. Si Dieu existe alors que nous, on voit les hommes capables de s'entretuer, mais je me dis que Dieu, il aime les hommes. C'est l'inverse de nous. Quoique nous ayons été faits à son image, mais on voit des choses que nous sommes capables de faire que si Dieu existe, lui n'en est pas capable. Dieu ne pourra jamais pécher. Ce n'est pas possible. Et c'est justement ce qui montre que nous ne sommes pas Dieu. Parce que nous ne sommes pas capables de faire tout ce que Dieu fait. On arrive tous à se dire que finalement, le bien qu'on aimerait faire, on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que le péché est en nous. On n'y arrive pas, c'est comme ça. On se donne des règles, on va essayer de s'obliger, de prendre des résolutions. On est encore au mois de janvier, on prend des résolutions. Mais qu'est-ce qui se passe? On prend des résolutions et deux jours après, on se dit, ben, on verra l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'on est incapable. L'homme est incapable, il est en lui. Le péché l'empêche d'aller au but. C'est d'ailleurs ce que ça signifie. Péché, ça veut dire manquer la cible. Il n'a pas réussi. C'est ça que ça veut dire, péché. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il lui a dit quelque chose de très simple, et c'est ce qui lui donnait d'ailleurs toute sa liberté. Il a dit à l'homme, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme a manqué le but. Il n'y a pas réussi. Il y a touché, il l'a mangé, il a désobéi, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes tous dans cet état. Si Dieu existe, croire, c'est croire que Dieu existe. Mais on voit déjà que ce simple point, il nous amène assez loin, celui qui croira. Est-ce que cet après-midi, j'admets que Dieu existe ? Sachant que si j'admets au plus profond de moi-même que Dieu existe, je vais t'amener à bien des réflexions qui seront logiques, qui vont découler de ce qu'on appelle dans le domaine scientifique, ce postulat de départ. Je choisis de dire, comme dans les exercices de maths, soit telle et telle variable s'appelant machin. C'est ça. À partir du moment où je crois que Dieu existe, ça devient ma première base et de cette base-là doit découler tout un tas de choses. Parce qu'il faut être logique, sinon on est fou. Il est aussi question de croire à quelque chose. Et quand Jésus est venu, la Bible nous dit que Jésus a été envoyé de Dieu, et il le dit lui-même. Donc il va falloir commencer à s'interroger sur ce que Jésus dit. Et Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle, et c'est ce que je réannonce cet après-midi. Jésus a dit... L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles pour libérer les opprimés et annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu annoncer la liberté, la guérison, la consolation. Il est venu apporter tout ce qui fait que nous sommes malheureux finalement. Face aux souffrances, j'ai besoin de paix. Être bien, c'est possible de souffrir en paix. Jésus, il est venu nous donner cette paix. Il n'est pas venu nous dire qu'on ne souffrirait plus, mais il est venu quand même nous apporter des choses pour le bien-être de l'homme. Il est venu apporter la guérison. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de son ministère, il va être meurtri, il va souffrir physiquement. Et la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est Ésaïe qui l'a annoncé. Il est venu apporter cette bonne nouvelle. Et il faut croire cette bonne nouvelle. Est-ce que je crois que ça, c'est la vérité ? Est-ce que je crois que Jésus est venu pour délivrer les hommes ? Est-ce que je crois que Jésus est venu non seulement pour apporter la guérison, mais surtout pour me délivrer de mes liens? De quels liens il parle? Des liens du péché. Des liens qui font que finalement je rate toujours ma cible. Je n'arrive pas à atteindre le but. Je n'arrive pas à avoir un comportement qui est acceptable aux yeux de Dieu. Et ça, il n'y a pas un homme, pas une femme, qui est capable d'avoir un comportement qui est acceptable aux yeux de Dieu. Parce que la Bible dit que tous sont péchés et privés de la gloire de Dieu. C'est ainsi. Si je crois que Dieu existe, moi je crois qu'il est aussi capable de nous transmettre sa parole. Et je crois, il faut être logique, parce que si Dieu existe, il est capable de parler. Et non seulement comme il est tout puissant, ça fait partie du postulat de départ, il est capable de veiller sur sa parole. Et c'est écrit aussi. C'est écrit. Si on commence à croire que la Bible a pu être falsifiée Pour certains se sont amusés à la tordre, mais ils auront à rendre des comptes devant Dieu. Mais la Bible authentique, elle existe aussi. Et quoi de plus logique ? Quand on sait que Dieu est capable de parler, puisqu'il nous a appris à parler. Dieu est capable d'entendre, parce que c'est lui qui nous a fait l'oreille. Dieu est capable de garder sa parole. Et Dieu, forcément, s'il existe, il a bien été capable de faire en sorte que cette parole demeure. Et c'est incroyable quand on fait un petit peu d'archéologie, qu'on commence à s'intéresser, et quand on voit à quel point le texte que nous avons est conforme à ce qui a été écrit dans des temps très reculés. Et quand on constate encore plus à quel point ce qui est écrit n'est pas démodé. Ce qui est écrit dans cette parole est tout à fait actuel. Je ne vais pas partir sur ce sujet, mais si Dieu existe, vous ne trouvez pas que c'est logique qu'il soit capable de préserver sa propre parole ? C'est naturel. Dieu est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Le deuxième point sur le fait de croire, c'est quand on commence justement à considérer comme étant véritable ce qu'on nous dit. Autrement dit, je vous poserai la question, il y en a plein qui disent « moi je crois en Dieu ». Ok, mais aujourd'hui quand on entend ça, moi je me méfie. Et souvent je retourne la question et je dis « est-ce que tu crois Dieu ?» Et ça c'est un peu différent. Est-ce que tu crois que Dieu existe ? Croire Dieu, c'est ça que ça veut dire, parce que sinon, on est fou. Mais si je crois Dieu, quand on croit quelqu'un, ça veut dire qu'on croit ce qu'il nous dit. Est-ce que tu crois dans la parole de Dieu ? Et est-ce que tu crois que ce qui est écrit à l'intérieur, c'est la vérité ? Il y a un verset qui dit aussi « ta parole est la vérité ». Et cette parole-là, elle est la vérité. Est-ce que tu crois dans la vérité ? Qu'est-ce qu'elle dit, cette parole ? Elle dit justement tout ce que j'ai présenté juste avant. Il nous décrit Dieu. Et il nous présente Dieu comme un Dieu tout-puissant, comme un Dieu qui est partout, qui connaît tout, qui est éternel, qui aime profondément les hommes, qui est miséricordieux, qui est prêt à nous pardonner nos fautes, mais aussi un Dieu qui est juste. Et quand il y a une faute, il y a une conséquence à cette faute. Et la Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Et quand il y a péché, il faut que quelqu'un meure. C'est ce que nous dit la Bible. Est-ce que je crois ces paroles ? Jésus-Christ, quand il est venu accomplir cette parole. Et il est venu pour que cette vérité-là soit manifestée. Le salaire du péché, c'est la mort, dit la parole. Mais Jésus, il en a été la preuve. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est écrit, certes. Et dans l'Ancien Testament, on a d'autres paroles qui nous indiquent que le péché a pour conséquence la mort. Dans la Genèse, on l'a de suite. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, il y a eu un délai, mais c'est arrivé quand même. Et le sort est tombé sur qui ? Sur Jésus-Christ. Il est celui qui a fait prendre forme à ses paroles. Parce qu'il est venu, lui, sans tâche. Il s'est lui-même incarné dans un homme. Il n'a jamais péché. Et pourtant, il a été victime, mais Dieu le savait, de la justice des hommes. Une grosse erreur judiciaire parce qu'il n'avait jamais rien fait. Il est venu, comme il l'a dit, pour bénir, pour faire du bien à tous ceux qui étaient autour de lui. Et pourtant, il a été condamné à tort. Mais Dieu le savait. Et sa mort sur la croix, c'est ce qui me donne la vie. Il y a un texte dans la parole qui dit que Dieu prouve son amour. Dans le fait que Christ est mort, alors que nous étions encore des pécheurs. On était loin de lui. On ne se souciait pas de Dieu. Et pourtant, Dieu avait déjà tout prévu. Et il a envoyé son Fils pour les hommes. Dieu a toujours aimé les hommes, à tel point qu'il a donné son Fils. Mais il avait aimé les hommes au point de leur laisser la liberté de choisir. Il leur avait laissé, dès le départ, la possibilité de le refuser. Et l'homme, quel choix a-t-il fait ? Il a refusé Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu. Et c'est pour cela qu'en, dans un second temps, Jésus est venu pour nous racheter. Parce qu'il y en a, ça nous arrive. Des fois, on fait des erreurs sans s'en rendre compte. Et l'homme est pécheur de par sa nature. Et Dieu le savait. C'est pour ça que l'homme a le droit à cette seconde chance, je dirais, avec Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Maintenant, toutes ces choses-là, ça fait 2000 ans que ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Que l'homme, à l'origine, il s'est rebellé contre Dieu. Mais la solution, qu'est Jésus-Christ, depuis combien de temps on l'a ? Cette parole, on l'a depuis un moment quand même. Si les gens avaient cru, la majorité des gens avaient cru, est-ce que vous croyez qu'on en serait là aujourd'hui, quand on regarde les guerres qu'il y a tout autour, sachant que Dieu nous appelle à aimer même nos ennemis, aimer ses ennemis, c'est pas humain, mais avec l'aide de Dieu, c'est possible. Mais ça, c'est écrit depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve que peut-être, à l'origine, l'homme s'est rebellé. Et à ceux qui diront, mais c'est la faute d'Adam, ben non, parce qu'aujourd'hui, on a bien la preuve que malgré le fait d'avoir la solution dans les mains, il y en a qui s'obstinent et qui ne veulent pas la mettre en pratique. Il y en a qui ne veulent pas croire à ces choses. Il y en a qui s'opposent à ce que Dieu dit, parce que c'est leur choix personnel. Ils ne veulent pas se soucier de Dieu. Mais il en résulte des situations compliquées dans les familles. Il en résulte des guerres, peut-être même dans les familles. Mais à plus grande échelle, nous voyons des guerres dans les pays. Pourquoi ? Parce que l'homme ne fait pas mieux qu'Adam. Et il choisit délibérément de ne pas croire en Dieu. C'est trop facile de dire que c'est la faute d'Adam. Si c'était uniquement de sa faute, je crois que peut-être ce serait la majorité. On le verrait. Si c'était uniquement lui, depuis Adam, on aurait peut-être vu quand même une majorité se dire « Eh oh, on va essayer de revenir aux bases ». Ça fait 2000 ans que la Bible, on l'a. Un peu moins. Mais la solution, elle existe depuis longtemps. Comment ça se fait que depuis le temps, on en est là aujourd'hui ? C'est que l'homme, il refuse Dieu. Et ce qu'Adam a manqué, on le manque aussi. Et peut-être cet après-midi, tu as manqué maintes fois la cible aussi. Plusieurs fois, tu l'as manqué. La Bible dit, parce qu'il s'agit de croire en la vérité, qu'un jour un jugement sera là et que nous devrons rendre compte à Dieu de notre position. Est-ce que nous avons cru ou est-ce que nous n'avons pas cru, tout simplement ? Et notre choix va positionner notre avenir après la mort. Et la Bible nous dit et nous supplie de faire le bon choix avant la mort, sachant que nous ne savons pas quand elle va venir. Il nous faut nous positionner, il nous faut faire le bon choix. Et comme je disais tout à l'heure, un enfant doit être capable de croire, il est capable de croire. Et cet après-midi, même si tu as un enfant, tu peux croire que la Bible est la vérité, tu peux croire que Dieu t'aime et que Jésus est mort pour toi sur la croix, pour te pardonner de tous tes péchés. C'est possible, il suffit de demander à Dieu, pardonne-moi. Le troisième point dans le verbe croire, c'est qu'on est être persuadé de l'efficacité de quelque chose. Avec des synonymes, se fier à, se rapporter à. Un exemple était donné par le dictionnaire, que je vais simplement reprendre. Croire en la médecine. Si on croit que la Bible est la parole de Dieu, on a fait une étape de plus, on croit que Dieu existe, première étape. Deuxième étape, on croit aussi dans ce qui est écrit, dans ce qu'il nous a dit. Et maintenant, on va commencer à s'intéresser à ce qu'il nous a dit justement et quelle est notre position. Imaginez, vous êtes malade. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez chez le médecin. Quand vous allez chez le médecin, est-ce que vous voulez qu'il vous dise des choses agréables ou est-ce que vous attendez du médecin qu'il vous dise quel mal vous avez? On veut un diagnostic, tout à fait. On veut un diagnostic qui soit juste. On ne veut pas forcément être brossé dans le sens du poil. Ce qu'on veut savoir, c'est la vérité. Qu'est-ce que j'ai? Quel est mon problème? C'est pour ça qu'on va voir le médecin. Le médecin nous regarde, des symptômes qu'on va lui donner, il va déduire, ben voilà, vous avez la grippe. Donc que fait le médecin? Et il nous apporte un éclairage que nous n'avons pas sur notre propre situation. Et c'est pour ça qu'on va chez le médecin, entre autres, pour savoir ce qu'on a. La Bible, c'est la même chose. Et tout ce que j'ai dit jusque maintenant, c'est l'éclairage que te donne la parole de Dieu. Tu es pécheur. Et dans cet état-là, tu ne pourras pas aller au ciel. Voilà l'éclairage, le diagnostic du grand médecin. Quand il te voit devant lui, voilà, il voit un homme pécheur qui, s'il devait être repris aujourd'hui, n'irait pas au ciel. Ou irait au ciel, selon que la décision a été prise. Est-ce que tu sais où tu vas? Devant le diagnostic du médecin, est-ce que tu sais si oui ou non tu es malade? Que t'a dit le médecin quand t'as lu sa parole? Je continue mon image. Est-ce que quand le médecin nous dit une vérité, elle ne nous plaît pas, est-ce qu'on commence à lui dire « Mais non, vous vous trompez, c'est pas ça ?» Non, on croit. Donc comme on croit, on accepte. Et on le prend comme étant une vérité. C'est ça, croire. Et qu'est-ce qui va se passer? Le médecin, il va nous donner une ordonnance. Il y a des tas de versets dans le psaume 119 qui parlent des ordonnances de Dieu. Quand on a une ordonnance, qu'est-ce qu'il y a dessus, d'écrit? Des listes de médicaments, de choses à faire pour obtenir la guérison. La grande ordonnance que j'ai lue tout à l'heure, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et voilà l'ordonnance que Dieu nous a laissée. Alors maintenant, si je continue sur cette situation, et là je vais aborder le quatrième point. Troisième point, c'est l'éclairage. Et croire dans l'éclairage que nous apporte justement le divin médecin. Est-ce que je vais me fier à ce qui m'a été dit? Donc maintenant, il en arrive à un positionnement. Est-ce que je crois dans l'ordonnance? Que diriez-vous de quelqu'un qui va chez le médecin? Le médecin lui dit, ben voilà, vous êtes malade, il faut que vous preniez ça, ça, ça et ça. Il a l'ordonnance dans les mains et il ne fait rien après. Vous allez chez le médecin, vous avez l'ordonnance, vous pouvez aller à la pharmacie chercher les médicaments. Vous ne faites rien. Il y a un problème, non, vous ne croyez pas? Il y a un problème. Je ne dirais pas que c'est de la folie, c'est de la négligence peut-être. Mais cette négligence, qu'est-ce qu'elle va faire? Si on veut vraiment guérir, eh bien, on va prendre l'ordonnance et puis on va l'appliquer pour nous. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas le choix. Alors on prend l'ordonnance, la liste de médicaments, et puis on exécute le traitement. Et c'est loin d'être un miracle, la guérison est au bout. Dans les choses de Dieu, c'est pareil. Les ordonnances qui sont là, elles ne sont pas là pour nous embêter. Les ordonnances que Dieu nous a laissées, elles sont là pour notre bien, pour nous amener à la guérison. Celui qui croira sera sauvé. Quand Dieu dit qu'il faut pardonner, ah ouais, mais non, là, je peux pas, là, vu ce qu'il m'a fait, c'est pas possible. L'ordonnance, elle est de dire d'aimer même ses ennemis, et donc de pardonner. Sachant que lui, il nous a tout pardonné. Si moi, je ne pardonne pas à un homme, je ne pardonne pas à quelqu'un à qui Dieu lui-même a pardonné. Donc si moi, je ne pardonne pas à un homme, ça veut dire que je me fais plus grand que Dieu, parce que là où lui ne s'est pas autorisé à ne pas pardonner, moi, je m'autorise à ne pas pardonner. Vous comprenez? Ça veut donc dire que si je ne pardonne pas, je me fais plus haut que Dieu. Or, la Bible dit qu'on ne peut pas se faire plus haut que Dieu. ce que Dieu ne s'est même pas permis à faire. On n'a pas à se permettre de le faire. Dieu pardonne tous les hommes et il pardonne absolument tout. Donc, nous devons faire pareil. Ça fait partie des ordonnances, dans le sens que on se rend compte quand on le vit, quand je pardonne, je me rends compte que je me fais du bien et que je me délivre de quelque chose qui me mine à l'intérieur, quelque chose qui me ronge à l'intérieur, quelque chose qui va me faire monter de la colère, de la haine et qui va me détruire vraiment. Pardonner, c'est devenir libre. Donc cette ordonnance, elle nous amène vraiment à une guérison. Maintenant, vous avez un éclairage, vous avez une ordonnance. Qu'est-ce que vous faites avec ? Est-ce que vous la suivez ou est-ce que vous ne la suivez pas ? Croire au Seigneur Jésus, vous voyez tout ce que ça peut vouloir dire. Je n'ai fait que prendre les points du dictionnaire. J'ai toujours cru en lui. C'est l'exemple qui est donné dans le dictionnaire. Est-ce que vous croyez dans la capacité du Seigneur ? Est-ce que vous croyez dans le sang de Jésus qui a coulé sur la croix du calvaire et qu'il peut faire en sorte que vous soyez réconciliés avec Dieu? Alors il suffit simplement de dire oui, je le crois. Ça veut dire que je crois que tu existes. Je crois, j'accepte l'éclairage que tu me donnes sur mon propre état. Je veux me fier à l'ordonnance que tu me donnes et je veux m'y appliquer pour obtenir la guérison. Jésus a tout accompli sur la croix du calvaire. Et concernant le salut, nous n'avons rien à faire, sinon qu'à croire que lui a tout fait pour nous. Il a tout fait pour nous. Si je crois que Jésus a détruit le péché en mourant sur la croix du calvaire, alors ça veut dire que je peux obtenir une nouvelle robe, comme ce fils prodigue, qui se retrouve ainsi revêtu d'une nouvelle robe. Et je peux croire, être certain qu'aux yeux de Dieu, eh bien, il ne me regarde plus comme un juge, mais il me regarde comme un père qui prendra soin de l'enfant que je suis. C'est ça que dit la Bible. C'est pour ça qu'il nous faut croire comme des enfants. Le baptême derrière n'est qu'un engagement, n'est qu'une mise en pratique de celui qui est réconcilié avec Dieu. Eh bien, il décide de tout son cœur le dire à tous et officialiser le fait qu'il est sauvé. Parce qu'on est sauvé avant le baptême. On est sauvé avant le baptême. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu ? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus ?